Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 7. Nous continuons donc notre étude dans cette lettre. Paul répond à des questions qui ont été soulevées par cette affirmation qu'il a faite au chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et Paul est conscient que le péché reste encore présent dans la vie du chrétien, mais le chrétien n'est plus sous la domination du péché. Au verset 6, il a dit que nous avons été dégagés, verset 6 du chapitre 7, que nous avons été dégagés de la loi, que nous sommes morts à ce qui nous gardait en captivité et que nous servons maintenant sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli cet ancien régime. Et Paul donc continue son argumentation au verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Comme on a déjà dit, il y avait à l'époque une rumeur au sujet de l'apôtre Paul et de son enseignement. Et cette rumeur disait que Paul détruisait la loi de Dieu, qu'il prêchait contre la loi de Dieu. C'est une rumeur qui a suivi Paul partout dans son ministère. Paul, bien sûr, met l'accent sur le salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi. Et Paul a souvent été mal compris. On disait que Paul, on l'accusait de vider la loi, d'annuler la loi, d'affirmer qu'il n'y avait pas de place pour la loi dans la vie du chrétien. Mais on a déjà vu que Paul a affirmé de façon claire, on l'a vu au chapitre 3 par exemple, à la fin du chapitre 3, verset 31, où Paul dit ceci, « Annulons-nous donc la loi par la foi, par ce message de l'Évangile, du salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on annule la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. L'Évangile est le seul message qui confirme la loi. Mais ce que Paul souligne et ce qu'il va continuer de souligner dans sa lettre, c'est que la loi ne peut jamais accomplir ce que la loi exige. La loi ne peut jamais accomplir ce que la loi exige. Seul le Seigneur Jésus-Christ a accompli ce que la loi exige. Il a subi la condamnation que méritent ceux qui n'obéissent pas à la loi. Mais il a aussi vécu une vie d'obéissance parfaite à la loi. Et lorsque le chrétien regarde à Christ et non à la loi, il découvre, comme Paul le dira au chapitre 8, verset 4, que la justice de la loi commence à être accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais le langage de Paul au sujet de la loi est à la fois dramatique et radicale, et certains pourraient être tentés de dire à l'apôtre Paul, « Paul, si tu mettais un tout petit peu d'eau dans ton vin, si tu diluais un petit peu tes propos, ce serait plus facile. » Mais Paul répondrait à cela, « Si vous ne comprenez pas la nature radicale de cette nouvelle relation que le croyant a avec la loi, vous ne comprendrez pas les gloires et les privilèges de l'Évangile. Et vous ne pourrez pas vivre pour Dieu. Vous ne connaîtrez pas le privilège de vivre, de servir Dieu, si vous n'êtes pas délivré de la loi de Dieu. » C'est pour ça que Paul souligne dans ce verset que nous avons regardé, au chapitre 6, verset 14, « Le péché n'a plus de pouvoir sur le croyant parce que le croyant n'est plus sous la loi. » Si on se place sous la loi, on ne pourra jamais être libéré du règne du péché. Et tant qu'on n'est pas libéré du règne du péché, c'est ça le paradoxe, on ne pourra jamais obéir à Dieu. Et Paul, alors qu'il réfléchit à ça, alors qu'il raisonne, ses déclarations deviennent de plus en plus radicales. Par exemple, au début de ce chapitre 7, Paul dit que le chrétien est mort à la loi, afin d'appartenir à Christ. Il appartient à un autre, il appartient à un autre mari, il appartient à Jésus-Christ. Et il commence à porter du fruit en vivant pour Christ, en étant uni à Christ, du fruit qui est en parfaite harmonie avec la loi de Dieu. Paul va donc passer tout ce chapitre à explorer cette question. Quelle est la relation du croyant avec la loi de Dieu? Et dans toute l'histoire, on a vu que c'est un point stratégique pour la compréhension de l'Évangile, pour vivre dans la liberté que donne l'Évangile. Que ce soit Martin Luther dans son commentaire sur la lettre aux Galates, ou que ce soit John Newton, l'auteur du cantique Amazing Grace. Newton va par exemple écrire dans une de ses lettres, « À la base de la plupart des erreurs religieuses se trouve une mauvaise compréhension du rôle de la loi de Dieu pour le chrétien. » Et on suffit de regarder dans le monde chrétien, le monde évangélique autour de nous. Il y a les légalistes, ceux qui disent que la loi est centrale, importante. Il y a de l'autre côté les antinomiens, ceux qui disent qu'il n'y a pas de place pour la loi de Dieu dans la vie du chrétien. Mais il y a, comme dit Newton, une mauvaise compréhension de la place de la loi dans la vie du chrétien. Alors qu'est-ce que Paul nous dit? Résumons d'abord ce qu'il nous a déjà dit. Nous sommes par nature sous la colère de Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ a subi la colère de Dieu à notre place en se livrant comme substitut, comme sacrifice sur la croix, de sorte que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, puisque Christ l'a subi à notre place. Mais Paul nous a aussi dit que nous étions pécheurs par nature, que nous avons hérité de notre père Adam, cette nature pécheresse, mais en Christ, nous sommes morts au péché. Et nous sommes libres de l'esclavage du péché. Nous marchons en nouveauté de vie, en union avec Christ, dans la puissance de sa résurrection. Paul nous dit que en étant morts avec Christ, nous sommes aussi morts à la loi, afin de servir sous le nouveau régime de l'Esprit. Aussi longtemps que nous sommes sous la loi, dit Paul, nous ne sommes pas libres du règne du péché pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien sûr, tout cela va soulever une question. Et c'est la question du verset 7. Paul, si tu dis toutes ces choses au sujet de la loi, qu'on doit mourir à la loi, qu'on doit être dans une position où l'on n'est plus sous la loi, qu'est-ce qu'on doit dire? La loi est-elle péché? Paul vient de dire toutes ces choses au sujet de la loi, des choses qui peuvent être étonnantes. Paul, si tu dis ces choses au sujet de la loi, qu'il faut mourir à la loi, alors les gens vont vivre n'importe comment. Ils ne vont pas obéir à Dieu. Paul, tu dois dire aux gens qu'il y a des lois, des lois, des lois et encore des lois. Mais bien sûr, c'est faux. Et c'est facile de démontrer cela. Parce que plus il y a de lois, plus il y a de péchés. Plus il y a de lois, plus il y a de péchés. Les politiques qui ne voient pas que seul l'évangile de Jésus-Christ peut transformer des vies veulent contrôler les gens. Ils vont ajouter plus de lois, plus d'éducation, mais plus de lois pour dire aux gens comment ils doivent vivre. Un exemple assez frappant aujourd'hui, c'est plus d'éducation sexuelle. Avec quel résultat? Ce que Paul dit ici. Quand il n'y a que la loi, il y a un accroissement des abus, des perversions, parce que la loi ne peut pas changer le cœur de l'homme. Et parce que Dieu n'a jamais donné la loi pour qu'elle change le cœur de l'homme. Elle ne peut pas changer le cœur de l'homme. Seul l'évangile de Jésus-Christ change le cœur de l'homme. Et quand il le fait, la personne qui vient à Christ dans la repentance et la foi commence à vivre dans l'obéissance à Christ, par amour pour lui, et découvre qu'en vivant pour Christ, elle fait les choses que demande la loi. C'est ce que Paul veut nous enseigner dans ses chapitres 6, 7 et 8. Au verset 5 de ce chapitre 7, on a vu « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Verset 6. « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. » Alors Paul, est-ce que la loi est péché? Est-ce que la loi est mauvaise? Est-ce que la loi de Dieu qui est bonne est la cause du péché? On va commencer à répondre aujourd'hui à ces questions et on va suivre l'apôtre Paul. Au verset 7, il commence. « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? » Et la réponse, bien sûr, vous la reconnaissez. Loin de là, c'est la même qu'il donne au verset 2 du chapitre 6 et au verset 15 du chapitre 6. « Si vous dites ces choses, si vous raisonnez de cette manière, vous n'avez pas compris l'Évangile. » Vous devez comprendre qu'il y a une relation radicalement différente entre la loi et le chrétien que vous êtes maintenant. Si vous dites que la loi est péché, que la loi est mauvaise, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Alors quel est le rôle de la loi? Si la loi ne peut pas me sauver, qu'est-ce que la loi fait? On va soulever certaines choses que Paul nous montre ici pour nous aider à comprendre comment la loi de Dieu fonctionne. Tout d'abord, premièrement, la loi révèle le péché pour ce qu'il est. Verset 7. « Mais j'ai connu le péché que par la loi. » Voilà le principe. Et Paul va nous donner une illustration personnelle, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». On a une illustration de cela dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Vous rappelez sans doute un homme très riche, mais aussi très respecté dans la société. Il était chef, un des chefs de la synagogue, avait entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, est venu voir le Seigneur Jésus et lui pose la question suivante, c'est dans Luc 18, les versets 18 et suivants. Il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus ne va pas lui dire, « Crois en moi. » Jésus lui dit, « Tu connais les commandements. » Et les commandements promettent la vie à ceux qui obéissent parfaitement à ces commandements. « Fais ceci et tu vivras. » C'est ce que l'Écriture enseigne, c'est ce qu'on a lu en Galates, c'est le Galates 3 aussi, qui souligne, qui montre cela. « Fais ceci et tu vivras. » Que répond cet homme? Il dit, en d'autres mots, il dit, « Mon maître, donne-moi autre chose à faire, parce que j'ai déjà obéi à ces commandements, depuis ma jeunesse. » Que fait le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il lui donne un nouveau commandement à faire? Non. Il va lui expliquer le 10e commandement en d'autres mots. Il dit, mais si tu as obéi à tous ces commandements, alors il ne sera pas difficile de vendre tout ce que tu as, de le donner aux pauvres et de me suivre. Ce n'est pas un commandement nouveau que Jésus donne. Non, il va expliquer le 10e commandement, l'appliquer à la situation de cet homme. Et celui-ci réalise que ses richesses sont recouvertes de superglue et qu'il ne peut pas abandonner ses richesses, qu'il ne peut pas renoncer à ses richesses. Et il va partir attristé. Le Seigneur Jésus-Christ le laisse partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune possibilité pour cet homme de venir à Christ, de croire en Christ, aussi longtemps qu'il pensait qu'il avait gardé les commandements. Aussi longtemps qu'il ne voyait pas ce 10e commandement expliqué en d'autres mots, appliqué à sa situation. Il ne voyait pas ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Il est parti pensant qu'il était toujours qu'il avait obéi à la loi, pensant qu'il y avait encore autre chose à faire. Et Paul, si on utilise le langage de l'apôtre Paul, cet homme connaissait la loi, du moins dans sa tête, mais la loi n'était pas venue comme elle est venue à l'apôtre Paul. Elle ne l'a pas convaincu de son péché de convoitise. C'est intéressant que ce que Paul dit ici au verset 7. « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point. » Puis il rajoute dans les versets 8 à 9, « Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est ce même commandement, tu ne convoiteras point, qui reprit vie dans la vie de Saul de Tarse. Et cela a été un moyen de l'amener à voir son état de péché. Alors comment est-ce que cela s'est passé? Si vous ne connaissez pas la vie de Saul de Tarse, qui est devenu apôtre Paul, en Galates 1, Paul dit que son ambition, avant d'être croyant, était d'être le numéro un à Jérusalem, d'être le numéro un en termes de religion, en termes de spiritualité. Il dit par exemple au verset 14, « J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Il était animé d'un zèle pour dépasser ses semblables dans la connaissance de la loi, dans l'application de la loi. Il écrit en Philippiens 3, verset 6, il dit dans ce passage ce que l'homme riche a dit au Seigneur Jésus-Christ. « J'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Tout comme l'homme riche a dit à Jésus, « J'ai fait toutes ces choses. » Est-ce que Paul était réellement irréprochable? Non, mais il pensait réellement qu'il était irréprochable, comme l'homme riche pensait qu'il l'était aussi. Et puis quelque chose s'est passé. Saul de Tarse, la ville de Tarse se trouve en Cilicie. Il y avait à Jérusalem un autre homme qui venait de Cilicie, un jeune, qui était venu à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Il avait un nom qui est d'origine païenne, mais un arrière-plan juif, son nom, Étienne. Étienne venait aussi de Cilicie. On ne sait pas comment Étienne a été converti, mais on sait qu'il faisait partie de ces hommes que les apôtres ont choisis en acte 6 pour s'occuper d'un problème pratique dans l'Église. Étienne avait un don pour la prédication, un don pour annoncer la parole de Dieu. En acte 6, verset 3, on nous dit qu'Étienne était plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et acte 6, verset 8, nous dit qu'il était plein de grâce et de puissance. Et puis les versets 9 et 10, acte 6, nous disent ceci. « Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie, y compris Saul de Tarse, et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. » Voilà Saul de Tarse, avec d'autres qui rencontrent Étienne et ils ne pouvaient résister à sa sagesse. Et lui, Saul de Tarse, qui était zélé pour être le numéro un, se trouve dans une situation qu'il n'avait jamais connue. Il ne peut pas résister à la sagesse et à l'esprit avec lequel Étienne parlait. C'est un peu comme un étudiant qui reçoit le corrigé de son travail et qui voit la note. Et il va revoir le professeur et dit « Mais je n'ai pas reçu un 20 sur 20 ». Le professeur va prendre la copie, il va dire « Ben non, vous n'avez pas 20 sur 20 parce que je vous ai donné 18 sur 20. Pourquoi est-ce que vous m'avez donné 18 sur 20 ?» Parce que vous méritez un 18 sur 20. « Oui, mais d'habitude, j'ai toujours un 20 sur 20. » Le professeur de répondre « Oui, sauf aujourd'hui. » Saul de Tarse était un étudiant qui n'avait toujours reçu des 20 sur 20. Peut-être que nous sommes aussi comme Saul de Tarse. Nous sommes motivés pour être le numéro un. La seule chose qui pourrait nous vexer, c'est d'être dépassé par quelqu'un d'autre là où nous pensions être le meilleur. Et qu'est-ce que cela va produire? La convoitise. La convoitise. Et c'est ce que Paul dit. La loi est venue. La loi est venue, le commandement est entré. Et le péché a explosé dans toutes ses expressions. Saul de Tarse n'avait que deux options. Soit il embrassait Étienne et disait « Étienne, laisse-moi être ton numéro 2 parce que je veux connaître ton Christ. » Soit il avait l'option de chercher à détruire Étienne et le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la deuxième option que Saul de Tarse a choisie. Mais une chose intéressante à noter, c'est que Saul de Tarse était pharisien. Les pharisiens n'ont pas cherché à détruire l'Église de Jésus-Christ. Nicodème était pharisien. Gamaliel était un pharisien. Et on lit même qu'il a à un moment défendu l'Église. Alors pourquoi est-ce que Saul de Tarse était si en colère contre l'Église pour aller plus loin que ses collègues et vouloir la destruction de l'Église? La réponse, elle est là. La loi est venue. Le commandement est venu. Et le péché reprit vie. Et Saul de Tarse, qui pensait être vivant, est mort. Ce que Paul souligne ici, la loi révèle le péché pour ce qu'il est. Le masque de sa soi-disant irréprochabilité a été enlevé. Et le péché et la loi va révéler la nature et le péché tel qu'il est. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, quand elles rencontrent des chrétiens, quand elles voient des chrétiens vivre, ou quand elles assistent à des réunions, des personnes qui d'habitude sont socialement très accueillantes et très sympathiques, certaines personnes vont devenir enragés et du poison va sortir de leur bouche. Pourquoi? Parce que la loi est venue. Parce que le péché, leur péché a été révélé pour ce qu'il est. Et elles n'ont que deux choses à faire. Soit elles viennent à nous en toute humilité en disant « Je vois que Dieu a fait quelque chose dans votre vie et pas dans la mienne. Dirigez-moi vers votre Dieu, dirigez-moi vers votre Sauveur. » Ou alors, elles peuvent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de nous détruire et de détruire notre témoignage. Et ça se passe tous les jours. La loi est venue. Elle a révélé le péché pour ce qu'il est. La deuxième chose que Paul souligne, c'est que le péché utilise la loi comme un point d'appui. Verset 8, le péché saisissant l'occasion par le commandement. Verset 11, « Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement. » Je pense qu'en écrivant cela, Paul pensait au moins en partie à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, Dieu avait donné à Adam et Ève un commandement en disant « Tout est à vous ». Tout ce qui est dans le jardin est à vous. Mais ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur avait donné d'autres commandements. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Dominez sur tout animal qui se meut sur la terre. Réjouissez-vous. Mais ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, ça a servi de point d'appui. Le serpent a utilisé pour séduire Adam et Ève. Il va s'avancer vers Ève. Il va lui dire, mais quel genre de Dieu est-il qui vous donne des commandements de ne pas faire telle chose? C'est un Dieu qui veut vous priver de certaines choses. Voilà, il vous place dans un jardin luxuriant et n'arrête pas de vous dire non. Et Satan va tromper Adam et Ève, les amener à penser que Dieu n'est pas juste. C'est comme avec les enfants. Est-ce que je peux avoir ceci? Non. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir cela? Parce que ce n'est pas bon pour toi. S'il te plaît, donne-moi cette chose. Non, tu ne peux pas l'avoir. Ce n'est pas juste. Dieu ne me donne jamais rien. Et c'est comme ça. Et Paul nous dit que dans ce sens, la loi a été comme un point d'appui que le serpent a utilisé, que le péché a utilisé. Voilà, Dieu vous prive par sa loi. Et beaucoup de personnes pensent à la loi de cette manière. Ils ne voient pas que le Dieu qui a donné la loi est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est généreux, un Dieu qui accorde des bénédictions. Il est même allé jusqu'à donner son propre Fils pour que nous retrouvions la communion avec lui, pour que nous vivions dans une intimité avec lui. Dieu est bon, Dieu est plein de grâce, mais aux yeux des hommes et des femmes pécheurs, Dieu est infiniment restrictif. Il nous prive de certaines choses. Pourquoi? Parce que le péché va employer la loi pour nous retourner contre Dieu. C'est un point d'appui que le péché va utiliser pour nous retourner contre Dieu. Troisième chose, la loi agit comme un catalyseur pour le péché. Je ne sais pas si les enfants ont vu cela dans les cours de chimie, mais un catalyseur, c'est une substance qui produit ou qui favorise une réaction sans être touché par la réaction. Paul dit, est-ce que vous avez compris comment la loi de Dieu fonctionne dans votre cœur? Dieu donne un commandement et l'homme pécheur va réagir contre ce commandement. Il y a en nous, dans notre nature pécheresse, cette détermination. Personne ne va nous dire comment nous devons vivre, ce que nous devons faire. Même pas Dieu, ou surtout pas Dieu. Et le fait qu'il y ait une loi qui possède l'autorité de Dieu en elle, cela va créer en nous cette réaction, cette opposition. La loi ne cesse pas d'être bonne, dit Paul, mais elle agit comme un catalyseur. Elle va produire en nous une réaction qui nous pousse à nous révolter contre cette loi. On pourrait citer beaucoup d'exemples dans l'histoire, mais il y a celle de l'exemple de saint Augustin dans ses confessions. Et il se rappelle qu'à l'âge de 16 ans, il est allé dans un verger qui appartenait à un voisin et il a volé quelques poires. Et plus tard, quand il y repense, il conclut en disant ceci, « En fait, les poires de notre verger étaient plus juteuses et plus grosses que les poires de ce verger. » Je n'ai pas volé ces poires parce qu'elles étaient plus juteuses ou plus grosses. La seule raison pour laquelle je les ai volées, c'est qu'elles appartenaient à quelqu'un d'autre et que je n'étais pas supposé les avoir. Le plaisir n'était pas dans le goût, mais dans le péché. Et nous sommes comme saint Augustin. La lettre aux Hébreux parle de quelque chose que l'on appelle la jouissance du péché. L'homme jouit, il prend plaisir dans le péché. Hébreux 11, verset 25. Mais cela ne dure pas. La loi agit comme un catalyseur pour le péché. Paul va plus loin, un quatrième point. La loi est un instrument de la tromperie du péché. Le péché, dit Paul, me trompe et utilise, tord la loi pour le faire. Dieu avait dit à Ève, Adam et Ève, je te donne tout. Réjouissez-vous, courez dans ce jardin, soyez libres, mangez du fruit. Ayez des enfants, multipliez-vous, assujettissez la terre. Dominez sur les animaux, agrandissez le jardin. Je vous donne le monde entier. Et quand on marchera dans le jardin, on parlera de comment je règne sur le monde et comment vous jouissez de ce jardin. Mais ne mangez jamais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jamais. Et à cause de ce commandement, le serpent est venu et a trompé Adam et Ève. Le pire mot en français, on nous dit, c'est non. Non, jamais. Mais c'est le meilleur mot quand c'est Dieu qui l'utilise. Adam et Ève ont été trompés. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé avec leurs yeux et pas avec leurs oreilles. Ils ont vu que l'arbre était agréable à regarder, que les fruits avaient l'air délicieux. Bien sûr qu'il était agréable à regarder parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu avait aussi donné un ordre et Adam et Ève n'ont pas écouté cet ordre. Vous ne devez pas manger de cet arbre. Ils ont été séduits et trompés. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Dira le serpent. Cinquième point, la loi apporte la condamnation pour le péché. À cause de notre péché, le commandement, verset 10, le commandement qui conduit à la vie, se trouva pour moi conduire à la mort. Ce commandement qui promet la vie, fais ceci et tu vivras, ce commandement conduit à la mort. Il prononce sur nous la sentence de mort. Mais la loi, dit Paul, n'est pas péché. La loi n'est pas mauvaise. La loi, elle est même sainte. Les commandements sont saints, sont justes, sont bons. C'est moi qui suis incapable d'y obéir. C'est moi qui suis incapable d'y obéir. Et Paul va poser une autre question au verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, la même réponse. Et il se passe quelque chose d'assez intéressant, d'assez étrange même dans cette lettre. C'est que ce passage que nous venons de voir est au passé. Et dans le reste du chapitre, jusqu'à quasiment les derniers versets, il va parler au présent. Pourquoi? Pourquoi ce changement de temps? La réponse dans 2 semaines. Mais quand on voit ce que la loi fait, on est déjà prêt à crier ce que Paul crie à la fin de ce chapitre. Qui me délivrera de mon péché que la loi condamne? Qui me délivrera? La réponse ne se fait pas attendre. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, on termine au pied du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui dont nous avons besoin. C'est à lui que nous devons regarder. C'est en lui que nous voulons placer toute notre confiance, parce que c'est lui seul qui a accompli toutes les exigences de la loi. C'est lui seul qui nous délivre de la condamnation de la loi. Il est plein de grâce pour nous pardonner, pour pardonner nos fautes et nos péchés, que ce soit des péchés publics ou même des péchés cachés que seuls nous connaissons. Mais on ne découvre la plénitude de sa grâce que lorsqu'on découvre la profondeur de notre péché. Et la loi a été donnée pour exposer notre péché. Et comme Paul le dira en Galates, pour nous conduire à Christ. Dieu nous aide à comprendre cela, qu'il nous aide à le vivre et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.